du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le quatrième dimanche de Pâques.
Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des ovins, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, celui-là est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui sont les siennes, et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont les siennes, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront sûrement pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Jésus leur dit cette comparaison, mais ils ne comprennent pas quelles sont les choses dont il leur parle. Il leur dit à nouveau,
« Amen, amen, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera sa pâture. Le voleur ne vient que pour voler, sacrifier et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Ces récits de comparaison pourraient avoir pour titre « Le bon pasteur et les faux pasteurs ». Ces comparaisons prendront tout leur sens à la lumière des coutumes de l'époque. Mais auparavant, situons le texte dans le récit de Jean.
Les chapitres 7 à 10 de Jean sont situés dans le cadre de la fête des Tentes, une fête juive où l'on rappelait que l'on attendait un Messie qui sauverait Israël. Eh bien, au cours de cette fête, Jésus, dans le temple, va se manifester comme étant l'envoyé du Père. « Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véridique. » Et ces paroles de Jésus vont provoquer une grande division entre les Juifs. Et les chefs religieux, notamment, vont chercher à le confondre soit à travers son enseignement, soit dans ses actes. Ainsi, ils lui amèneront une femme surprise en délit d'adultère pour qu'il la condamne à la lapidation, en étant en cela en accord avec la Torah de Moïse. Mais Jésus ne condamnera pas cette femme, et il renverra chaque accusateur à sa propre conduite, celui d'entre vous qui est sans faute, qui lui jette la première pierre. Et il y aura de nouveau une confrontation, et ce sera à propos de la guérison d'un aveugle né, une guérison que Jésus fait le jour du sabbat. Et bien sûr, les pharisiens ne seront pas d'accord avec cette guérison faite le jour du sabbat. Jésus va traiter ces pharisiens d'aveugles, comme il dira d'ailleurs ailleurs qu'ils sont des guides aveugles. Eh bien, cet épisode du temple va conduire tout naturellement Jean à mettre ici l'épisode des bons et des mauvais guides, des bergers qui sont des bons pasteurs et de ceux, au contraire, qui sont de faux pasteurs.
Notre texte ne donne qu'une partie du discours de Jésus sur le berger. Ce discours continuera jusqu'au verset 18 et décrira le trait majeur de la bonté du berger. Il livre sa vie pour ses brebis.
Oui, évoquons d'abord les coutumes de l'époque pour bien comprendre les images. La Palestine était, et elle est encore, une terre agricole, mais aussi une terre d'élevage. Et de nombreux bergers faisaient paître leurs troupeaux sur les collines. La nuit, on ramenait souvent les brebis au village le plus proche pour se protéger des bêtes sauvages, mais aussi se protéger des voleurs. On réunissait les troupeaux dans un enclos entouré d'un mur de pierres sèches, et il suffisait alors d'un gardien pour surveiller plusieurs troupeaux, ce qui permettait aux bergers de se reposer sous la tente. Malgré enclos et gardiens, pourtant, il arrivait que des voleurs opèrent de nuit en escaladant la palissade. Et le matin, eh bien, chaque berger venait chercher son troupeau. Il se plaçait devant la porte de l'enclos et il lançait un cri spécial que seuls ses propres brebis reconnaissaient. Parfois même, il pouvait donner à chacune des bêtes un nom propre. Le berger conduisait alors son troupeau dans ses pâturages, et il était donc le bon pasteur donnant pâture, donnant repas à ses brebis. On sait en effet que les mots pasteur, paître, ont la même origine, la même racine que le mot repas. Et comme le dit le texte, eh bien, le pasteur est celui qui fait sortir de l'enclos pour aller chercher le repas, la nourriture, puis qu'il fait rentrer le troupeau à la nuit tombante pour le mettre à l'abri.
Cette image du berger n'est-elle pas utilisée chez les peuples orientaux pour décrire les chefs des peuples?
Oui, on retrouve cette image et aussi dans les écrits bibliques. Moïse, Josué, David seront appelés des pasteurs. Dans le livre des Nombres, chapitre 27, cette figure du berger décrit le successeur que Moïse doit se chercher.
Moïse parla au Seigneur et dit: que le Seigneur établisse sur cette communauté un homme qui sorte et qui rentre à leur tête, qu'il les fasse sortir et rentrer, pour que la communauté ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. C'est sur son ordre qu'ils sortiront et entreront, lui et toute la communauté.
Bien, on va remarquer ici les expressions « sortir » et « rentrer » qui se retrouvent dans l'épisode évangélique d'aujourd'hui. Mais les chefs ne sont pas toujours de bons pasteurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne donnent pas la pâture aux brebis, ils laissent le peuple affamé et sans espérance. Les prophètes, dans l'histoire, vont fustiger souvent les rois d'Israël en les traitant de mauvais pasteurs. Écoutons le prophète Ézéchiel au chapitre 34.
« La parole du Seigneur Dieu me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Tu leur diras: malheur aux pasteurs qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas donner pâture aux troupeaux? Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez conduites avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de pasteurs, pour devenir la proie de toute bête sauvage. »
Oui, on a ici déjà la description de ces pharisiens qui ne s'occupent pas de la brebis aveugle-née, mais qui vont au contraire la jeter hors du temple, hors de l'enclos. Eh bien, pour être un bon pasteur, ce qu'il faut imiter, c'est le Seigneur Dieu lui-même, qui est décrit dans la Bible comme le véritable pasteur. Écoutons un texte d'Isaïe au chapitre 40.
« Tel un pasteur, le Seigneur fait paître son troupeau. De son bras, il le rassemble. Il porte sous son sein les agneaux. Il conduit vers la fraîcheur les brebis qui allaitent. »
Cette image de Dieu est fréquente dans la Bible et spécialement dans les psaumes. Nous allons citer deux exemples. L'un dans le psaume 99-100 et l'autre dans le psaume 22-23.
C'est le Seigneur qui est notre Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple et le troupeau de son bercail. Le Seigneur est mon pasteur, rien ne me manque. Sur des pâtures d'herbe fraîche, il me parque. Pour me ranimer, il me conduit vers les eaux du repos. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Oui, tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me rassurent.
Dans les temps qui sont des temps d'épreuve, par exemple quand le peuple est dispersé, déporté, et qu'il est sans roi, sans chef, les prophètes vont, pour ranimer l'espérance du peuple, rappeler la promesse de Dieu d'être le bon pasteur de son peuple. C'est ce que fait Ézéchiel, c'est dans au chapitre 34.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. Je retirerai mes brebis de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de ténèbres. Je leur ferai quitter les peuples dans les pays étrangers où elles sont. Je les rassemblerai et les ramènerai sur leur sol. C'est moi qui ferai paître mes brebis et qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade.
Eh bien, pour réaliser cette promesse d'un Dieu qui sera le bon pasteur de son peuple, les prophètes annoncent que Dieu choisira un homme et qu'il le consacrera, qu'il sera ainsi le Messie pasteur pour guider son peuple en son nom.
Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique, un descendant de David. Lui le fera paître et sera pour eux un pasteur. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu et mon serviteur sera roi au milieu d'eux.
Mon serviteur sera roi au milieu d'eux. Eh bien, en s'attribuant le rôle du bon pasteur, Jésus se désigne comme ce roi serviteur au milieu d'eux, comme ce Messie pasteur envoyé par le Père.
Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père.
Au temple, dans les discussions entre juifs, à travers les chapitres qui précèdent, c'est toujours la même question qui est posée à Jésus. D'où vient cet homme? Est-il un homme de Dieu? Et Jésus sans cesse reprend l'affirmation de son lien avec le Père, un lien qui seul peut justifier justement cette autorité et cette mission d'être le Messie pasteur.
Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique. Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné.
Voilà donc l'affirmation qui retentit tout au long du récit de Jean. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. C'est en effet ce lien avec le Père qui est le critère pour reconnaître le vrai pasteur et le faux pasteur. Et le lien avec le Père sera reconnu au fruit de vie que porte le messager. Redonner la vue à un aveugle, est-ce que ce n'est pas précisément un geste porteur de vie? Alors, pourquoi les pharisiens ne voient-ils pas ce geste de vie? Eh bien, c'est parce qu'ils sont aveuglés. Déjà, dans un texte juif écrit 150 ans avant Jésus, le livre d'Hénoch, le peuple d'Israël est comparé à un troupeau de brebis qui ont été aveuglés, et qui retrouveront la vue lorsque le Seigneur va venir s'occuper d'elles. Le vrai berger, celui qui est berger au nom du Père, apporte un message de vie qui est une parole d'amour adressée à chaque brebis. Tu es aimé de Dieu, et au nom de Dieu, moi, je t'aime. Par ses gestes d'amour, envers la femme adultère qu'il ne condamne pas, envers l'aveugle-né qu'il guérit, Jésus se fait l'écho de cette parole de Dieu dans le prophète Isaïe.
Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix, car je t'aime.
Et rappelons encore pour illustrer cela le film La Dernière Marche dont nous avons parlé la semaine dernière. C'est en effet par ces paroles mêmes d'Isaïe que nous venons de citer que la religieuse signifie au condamné qu'il est lui aussi un fils de Dieu, qu'il est aimé de Dieu. Mais ces paroles, bien sûr, ne seront que lettres mortes si elles ne sont pas dites par quelqu'un dont le cœur aime avec la force d'amour qui vient de Dieu. Seul celui qui se laisse aimer de Dieu et qui vit de l'amour de Dieu pourra devenir le transmetteur de la vie de Dieu et de son amour, pourra être le bon pasteur. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et Jésus appelle chacune, chacun de ses disciples à devenir à son tour un bon pasteur. C'est donc là une mission sacrée, une responsabilité sacrée, au sens littéral du mot sacré, qui signifie appartenir au monde du divin.
Comment comprendre l'expression « les brebis qui sont les siennes » ? En effet, tout être humain ne fait-il pas partie du troupeau de Dieu ?
Les brebis qui sont les siennes, le vrai berger les nomme par leur nom, et il leur donne la nourriture qui convient à chacune. Si Jésus apporte bien cette parole de vie qui convient à chacun, comment se fait-il que beaucoup ne reconnaissent pas en lui le bon berger ? Eh bien, le récit de Jean répond peut-être à cette question.
Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de qui je suis. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie d'éternité. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu. Si vous m'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu.
Oui, tout être humain peut donc faire partie du troupeau de Dieu. Tout être humain est aimé de Dieu. Mais les gens qui ne sont pas sur la longueur d'onde de Dieu ne peuvent pas entendre son message. Leur esprit est celui du diable, comme dit l'Évangile. Et les œuvres du diable sont des œuvres de destruction, des œuvres qui mènent à la mort spirituelle. Pour reconnaître en Jésus l'envoyé du Père, le bon pasteur, il faut être de son esprit. Et cet esprit, eh bien, c'est un esprit de bonté, et non pas seulement un esprit de stricte justice. C'est un esprit de pardon, et non pas un esprit de vengeance punitive au nom de la justice. Ceux dont les cœurs sont fermés à l'amour ne peuvent pas accueillir son pardon. Oh, certes, si l'on se reconnaît aveugle, alors on peut changer et se convertir.
Voici que vient l'heure, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront.
Mais par contre, si l'on prétend voir clair, alors on demeure dans les ténèbres, on reste aveugle, on ne peut pas reconnaître la parole de Dieu dans les gestes de Jésus. De même que c'est à ses fruits qu'on reconnaît un bon arbre, eh bien, c'est à ses œuvres qu'on va reconnaître le bon berger.
Plusieurs disent de Jésus, il est possédé, il est fou. D'autres disent, ses paroles ne sont pas celles d'un possédé. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?
Pour faire comprendre qu'il est la voix de Dieu, le message de Dieu, Jésus semble même se nommer la porte de l'enclos de la bergerie. Il est intéressant de noter que le mot grec qui traduit « enclos » est le même qui désigne le parvis du temple, ce temple de Jérusalem dont la porte s'ouvre justement pour donner accès à la présence de Dieu, du Dieu de vie.
C'est ici la porte du Seigneur. Les cœurs droits entreront par elle.
Et on se souviendra que Jésus s'est désigné comme le véritable temple de Dieu, le temple qu'est sa personne et d'où couleront des fleuves d'eau vive.
En décrivant les faux pasteurs, Jésus ne fait-il pas, en fait, la description du bon pasteur par contraste ?
Le faux berger est désigné comme un voleur. Il est voleur parce qu'il est étranger à la famille de Dieu. Il est étranger à son esprit parce qu'il n'est pas animé par l'amour. Il ne vient pas donner la vie. Il vient seulement pour détruire. Il détruit la vie de ses brebis en leur faisant violence, en leur enlevant leur liberté intérieure, en abusant de son pouvoir, en les condamnant pour des peccadilles, au lieu de les encourager en soulignant leurs beaux gestes. Les scribes et les pharisiens qui s'opposent à Jésus, qui condamnent la femme adultère, aussi bien qu'ils condamnent Jésus qui guérit pendant le repos du sabbat, ces scribes et ces pharisiens, est-ce que ce ne sont pas ces faux bergers qui ne pensent qu'à sacrifier et faire périr au nom de la stricte justice, de la stricte observance de la Torah? Eh bien, ils font cela parce qu'ils font une interprétation fausse de la Torah, parce qu'ils n'amènent pas la Torah à son accomplissement, et l'accomplissement de la Torah, c'est la bonté qui va jusqu'au pardon. Ils sont donc, ces pharisiens, semblables à tous ces pasteurs décevants que fustigeaient les prophètes.
N'y a-t-il pas aujourd'hui de tels faux bergers parmi certains gourous?
Oui, on peut songer à ces sectes où les adeptes abdiquent leur volonté propre dans les mains de leur maître. L'amour du Rabbi Jésus ne s'impose pas, pas plus que celui de Dieu. Jésus propose sans imposer. Aux riches, il dit « si tu veux aimer en vérité ». Comme Dieu disait à son peuple par Moïse, « tu choisiras, vois, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur ». Eh bien, pour éclairer cela, peut-être citons François Varillon dans « L'humilité de Dieu ».
Dieu seul respecte absolument la liberté de l'homme. Il la crée. Ce n'est pas pour la pétrifier ou la violer. C'est pourquoi jamais il ne crie ni n'impose. Il suggère, il propose, il invite. Il ne dit pas « je veux », mais « si tu veux ». Des expressions comme « commandement de Dieu »,« volonté de Dieu » doivent être comprises selon l'amour.
Le bon pasteur est celui qui ne donne pas seulement de quoi paître et se repaître. Ce qu'il donne pour nourrir, c'est lui-même, c'est son amour, sa vie. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Alors comment fait-il? Eh bien, François Varillon encore va éclairer cela.
L'amour ne manipule pas les libertés qu'il crée. Il ne peut les contraindre à aimer. En leur donnant de se créer elles-mêmes, il accepte le risque de les voir se détourner de lui ou se retourner contre lui. Un amour créateur de liberté ne peut être qu'un amour souffrant. Le respect de Dieu pour la liberté de l'homme va jusqu'au bout de lui-même. Le refus de l'homme est possible, donc son malheur, donc l'agonie de son Père au plus secret de son intimité.
Oui, ce sera sur la croix que Jésus sera donc l'image parfaite, l'image achevée du bon pasteur divin. Il sera le témoin d'un Dieu qui n'est pas un Dieu de vengeance, fût-ce au nom de la justice, mais un Dieu de pardon et de miséricorde. Ainsi, il n'y aura pas de témoignage du Dieu de Jésus dans notre monde sans que chaque disciple de Jésus agisse comme lui, aime comme lui, sans que chaque disciple de Jésus soit porteur de la même vie en abondance.
De telles images de bergers et de brebis peuvent apparaître lointaines aujourd'hui.
En effet, pour nous qui passons toute notre existence dans les grandes villes, où on ne voit que des bétons, que du béton et des voitures, les images de bergers ont peu de force d'évocation. Et pourtant, il nous faut bien comprendre cette image biblique avec toute sa richesse, pour tenter d'en extraire le message. Et à ce moment-là, de pouvoir le traduire dans le langage actuel, mais ça n'est pas facile. Qu'est-ce que nous pouvons trouver dans la vie quotidienne de la grande ville pour remplacer cette image du berger? Qui est aujourd'hui un guide, un nourricier? Les parents pour leurs enfants. Effectivement, c'est de toute évidence leur tâche. Le prêtre? Oui, à condition qu'il partage vraiment le pain de la parole à la communauté chrétienne. L'accompagnateur spirituel? Oui, mais il faut qu'il agisse avec beaucoup de respect. L'animateur social? les psychologues, les psychothérapeutes. Mais attention, aucun de ces guides, parce qu'ils sont imparfaits, ne pourra jamais être le bon parent, le bon prêtre, le bon accompagnateur spirituel, le bon psychologue, de la même manière qu'il y avait au temps de Jésus des bergers qui n'étaient pas le bon pasteur, des pharisiens, des scribes, qui n'étaient pas des bons pharisiens, des bons scribes. Et il nous faudra toujours revenir à la figure unique de Jésus de Nazareth, le découvrir et le redécouvrir sans cesse, et cela à travers l'Évangile lu et prié, l'Évangile médité, avec un cœur disponible sous l'action de l'Esprit-Saint, lu et médité, écouté comme on est devant son ami le plus intime, son frère le plus cher, devant son Seigneur. Oui, pour le disciple chrétien, seul Jésus sera toujours la porte, le chemin, le pasteur, parce qu'il est celui qui nous mène au Père, qui me voit, voit le Père, parce qu'il est celui qui nous dit la parole du Père, qui m'écoute, écoute celui qui m'envoie. Dans l'histoire du monde, comme dans l'histoire de notre vie, qui d'autre que Jésus, en effet, peut jouer ce rôle d'être le bon pasteur?
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous et nous vous donnerons l'adresse exacte de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.